Ici, c'est la grande crise. On est en pleine famine. Le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte est désespéré. Naturellement, nous aussi, on aimerait échapper à l'adversité, n'est-ce pas? On a même souvent le sentiment que l'adversité, que ce soit les maladies, les accidents, que ce soit les difficultés professionnelles, familiales, ou comme ici, une catastrophe naturelle, on a l'impression que l'adversité, c'est comme une intrus dans le plan de Dieu. On a l'impression que l'adversité va à l'encontre même du plan de Dieu. Mais regardez juste quelques versets que j'aimerais vous lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45 et au verset 7. Voilà ce que dit le prophète. C'est Dieu qui parle. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et dans le psaume 105, je lis juste le début. Il dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Et puis je passe un petit peu pour arriver à l'histoire d'Israël. Et verset 16, il dit « Il appela sur le pays la famine. » Dieu appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Et il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Voyez ce qu'il dit ici dans ce passage ? C'est Dieu qui envoie l'adversité. C'est Dieu qui envoie la famine sur le pays. C'est surprenant, n'est-ce pas ? C'est même difficile parfois à comprendre, à saisir. Imaginez Jacob là, il réalise que Joseph est vivant. Les chars de Pharaon sont là devant sa porte et il commence à embarquer, il se réjouit, enfin je vais pouvoir voir mon fils. Il se met en route avec toute sa famille. Et puis il arrive à Beersheba. Beersheba, c'est vraiment le sud du pays. Et puis là, il s'arrête. Et c'est pour lui difficile d'aller plus loin. Parce que s'il continue, il quitte le pays que Dieu lui a donné en héritage. C'est fort pour lui. Dieu, quand il était à Charan, Dieu a dit, s'est révélé à Jacob et lui a dit, tu quittes Charan et tu vas t'installer en terre promise. Tu vas là-bas. C'est le pays que je te donne. Quand il arrive là-bas, Dieu se révèle à nouveau à lui et lui dit, je vais te bénir. Je vais multiplier ta famille. Je vais faire de toi une grande nation. Et puis toute la terre que tu vois là, tout le pays de Canaan que j'ai promis à Abraham, que j'ai promis à Isaac, je te le donne à toi, Jacob, et aussi à tous tes descendants. Et puis à ce moment-là, il s'apprête à quitter ce terrain. Il s'apprête à quitter le terrain de la promesse. Il a vécu pour ça jusqu'à présent. Et il s'apprête à quitter ce pays. C'est un peu comme lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Vous vous souvenez de la chose ? Isaac, sur lequel reposent toutes les promesses de Dieu, Dieu lui dit, tu me l'offres, tu le tues. Et Abraham obéit. Vous savez, c'est à Beersheba même, là où se trouve aujourd'hui Jacob, que Dieu s'est révélé à Abraham et qui lui a demandé, offre-moi ton fils, va sur cette montagne et offre-moi ton fils. Et je pense que c'est troublant pour Jacob à ce moment-là. Et puis, Beersheba, c'est aussi le lieu où son père, Isaac, a habité. Le jour où il voulait partir en Égypte, parce qu'il y avait aussi la famine, Dieu l'a arrêté et lui a dit, non, tu restes là. Tu restes à Beersheba. Et il s'est installé là. Et Jacob, il a toutes ces pensées-là en tête et il dit, c'est le pays de la promesse et je vais le quitter. Et il tremble à ça, à cette idée. Et c'est pour ça que, avant d'aller de faire un pas plus, de plus, Jacob va offrir des sacrifices et il va chercher la face de son Dieu. Il a besoin, au fond, de son approbation pour quitter probablement définitivement la terre promise. Il a quand même 130 ans. Et Dieu se révèle à Jacob et lui dit, il lui fait ces trois promesses. Ne crains pas de descendre en Égypte. Je ferai de toi une grande nation. Je serai avec toi et je te ferai remonter. Et Joseph même te fermera les yeux, ce qui est l'assurance d'une fin de vie heureuse. Lorsque Dieu conduit nos vies dans le chemin de l'adversité, je voudrais regarder ce matin qu'il nous reconnecte à son plan. Il nous conserve sa faveur et puis il accomplit sa promesse. Voyez-vous, quand on est face à l'adversité, on est saisi de la même crainte que Jacob. On a peur d'avancer, on a besoin d'être rassuré. Pensez à ces choses. Dans l'adversité, Dieu nous reconnecte à son plan. Dans l'adversité, Dieu nous conserve sa faveur. Et puis enfin, dans l'adversité, Dieu accomplit sa promesse. Regardons le premier point. Dans l'adversité, Dieu nous reconnecte à son plan. J'aime cette pensée-là. Ça fait longtemps que Jacob n'a pas repensé au plan de Dieu, à la bénédiction qu'il a reçue. On a l'impression que sa vie s'est arrêtée au fond au moment où on lui a annoncé en tout cas la mort de Joseph. Ça fait 22 ans en arrière. Vous vous souvenez avec quelle ardeur il voulait la bénédiction de Dieu ? Il la voulait par tous les moyens. Il était prêt à tout pour obtenir cette promesse, cette bénédiction. Et maintenant on a l'impression qu'il n'y pense même plus. On a l'impression que son cœur n'y est plus. Et ici, dans notre passage, dans la fin du chapitre 45, il est dit que le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. C'est-à-dire, il n'envisage même plus le plan de Dieu. C'est sorti de sa tête. Et il faut que Dieu ranime son esprit pour qu'il se lève et qu'il parte. Et maintenant qu'il doit quitter le pays de la promesse, il y repense, il consulte son Dieu, et Dieu lui rappelle la même promesse qu'il lui avait faite auparavant. Voyez-vous, il n'est pas rare que nous oublions Dieu et le plan dans lequel il nous a engagés. Les choses du quotidien prennent le dessus, et puis on est envahi par des choses de néant, et puis on oublie même le plan de Dieu pour nous. Quel est le plan de Dieu pour Jacob ? On a mis ça X fois affiché. Dieu l'a béni, Dieu l'a choisi pour bénir. Il nous a choisi pour qu'on soit une bénédiction au milieu de ce monde, pour qu'on puisse bénir ceux qui nous entourent, pour qu'on soit un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu, pour qu'on puisse glorifier notre Dieu aux yeux de ce monde. C'est cela son plan. Joseph, héritier de cette même promesse, il n'a pas oublié sa raison de vivre. Il est en Égypte. Pour quelle raison pour lui ? Il est en Égypte pour sauver sa famille et pour sauver un peuple nombreux, pour faire connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour révéler sa gloire. Et Joseph, il a cette ferme conviction qu'il n'est pas en Égypte simplement à cause de la méchanceté de ses frères, mais par la volonté de Dieu, pour un plan qui est beaucoup plus grand que sa propre vie. J'ai l'impression que quand Jacob arrive en Égypte, il retrouve son fils Joseph, et puis il reprend vie. Il commence à dire, mais... Et quand il se présente à Pharaon, il dit, j'ai eu 130 ans. 130 ans de galère. En réalité, il oublie les 7 années où il a travaillé pour Laban parce qu'il était amoureux de Rachel et que ça a duré juste à ses yeux que quelques jours. Il a eu quand même des bons moments. Mais la plupart de sa vie, ça a été des souffrances. Et des souffrances notamment à cause de sa propre faute, de ses propres péchés. Et puis après, à cause des péchés de ses fils. Mais quand il arrive là, il commence à reprendre vie. Il commence à se souvenir, oui, mais je vais quand même être une bénédiction. Je vais quand même être une bénédiction pour ce monde. J'aime la visite qu'il fait à Pharaon. C'est un petit vieux au fond, hein. 130 ans quand même, c'est bien. Il est le patriarche d'une famille de 70 personnes. Alors Pharaon, il lui accorde une audience parce que, en fait, c'est le vieux père de son premier ministre. Donc, allez, viens. Mais, au fond, les Hébreux et les Égyptiens, ils ne font pas trop bon ménage. Vous vous souvenez que quand Joseph a reçu ses frères, il n'a pas mangé avec eux parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux. Alors, recevoir un Hébreu au palais, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ce sont tous des bergers. Et les bergers sont aussi en abomination aux yeux des Égyptiens. Donc, finalement, Pharaon, il fait juste une petite faveur comme cela au papy. Mais quand Joseph présente son père à Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre de l'époque, celui qui est vénéré comme un dieu, c'est le petit vieux qui bénit Pharaon. C'est fort, ça. Il vient, il rentre dans l'audience, et puis il prononce une bénédiction sur Pharaon. Et la Bible nous enseigne que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Dans la pensée de Jacob, à ce moment-là, il dit, moi, j'ai été choisi par Dieu pour être une bénédiction pour le monde, pour être une bénédiction pour cet homme qui a pris soin de ma famille, de mon fils. Et puis, il le bénit. Je trouve ça fantastique. Vous savez, si vous êtes des véritables enfants de Dieu, si vous êtes de véritables chrétiens, vous avez cette bénédiction qui repose sur vous. Et vous devez être une bénédiction pour votre entourage. Cherchez à aimer, à prendre soin de qui que ce soit. J'avais lu cette petite anecdote, c'était un sénateur qui avait un assistant parlementaire, très à la mode, et qui était un fils de chrétien, d'un paysan. Et un jour, le père, le paysan, est venu rendre visite à son fils. Et puis, il se trouve que le sénateur est là. Alors, le fils présente son père au sénateur et le père lui dit, monsieur le sénateur, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes un chrétien? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que si vous mourrez aujourd'hui, vous êtes en paix? Alors le fils, l'assistant parlementaire, ça y est, j'en étais sûr, il est prêt à s'excuser devant le sénateur, etc. Et puis, quelque temps après, le père, le vieux chrétien, meurt. Et le jour des obsèques, une belle gerbe arrive avec un mot du sénateur. Le seul homme qui se soit préoccupé de mon âme. Voyez-vous, c'est notre rôle d'apporter une bénédiction dans ce monde. Parfois, on oublie qu'on est qu'on est sur cette terre, que Dieu nous a placés là pour être une bénédiction, pour pouvoir apporter ce que le monde ne connaît pas, Jésus-Christ, le Sauveur. On ne doit pas craindre de le faire, au contraire, le faire avec une pleine assurance. On est emporté par le tourbillon de la vie, plongé dans la multitude de nos occupations, et nous perdons de vue notre bénédiction, notre raison de vivre. Et puis survient l'adversité, la maladie, les difficultés, et puis Dieu réveille notre esprit, rappelle notre vocation. Oui, Dieu, dans sa bonté, permet des jours d'adversité pour nous reconnecter à son plan et servir à la bénédiction des autres. N'oubliez pas cela. Et si l'adversité frappe à votre porte, que ce soit l'occasion de vous reconnecter au plan de Dieu. La deuxième pensée que je voulais relever ici, c'est que dans l'adversité, Dieu conserve sa frayeur. Vous savez, les premiers mots que Dieu dit à Jacob, quand il se révèle à lui, il lui dit « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas de descendre en Égypte. » Quand l'adversité arrive, la première chose qui nous vient, c'est la crainte. On a peur, on est angoissé. Comment est-ce qu'on va faire face à tout cela? Les voilà dans un pays étranger, la famine bat son plein. Au verset 14, il est dit que le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Et vous voyez quoi? La famille de Jacob va se voir attribuer la meilleure partie du pays, Gozan. Les instructions de Joseph pour la rencontre de ses frères avec Pharaon, il leur dit, surtout, vous dites bien que vous êtes des bergers. Au fond, il sait, il connaît la chose. S'ils ne disent pas qu'ils sont des bergers, ils vont vite finir à la capitale. À la capitale, ils vont être assimilés aux Égyptiens. Vous rendez compte, ils sont 70. En quelques jours, ils vont être absorbés. Vous vous souvenez que quand Joseph est arrivé lui-même à la capitale, dans le palais, aussitôt, on l'a marié avec Asnath, la fille de Potiphéra, un prêtre d'Odon. Donc, finalement, l'assimilation est très rapidement faite. Et c'est pourquoi Joseph, il présente habilement ses frères à Pharaon pour que sa famille ne soit pas absorbée, mais qu'au contraire, elle soit préservée de l'influence païenne et obtienne la meilleure partie du pays. La contrée de Ramsès, comme elle est appelée plus tard, le pays de Gozan, dans le delta du Nil, une région extrêmement fertile, idéale pour le bétail. Et ils y resteront 400 ans jusqu'à leur départ. Vous savez, nous aussi, on a besoin de préserver notre identité. On est des chrétiens. Et on vit dans un monde qui est corrompu, déchu. Nous sommes le peuple de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes les témoins de son amour en route pour la cité céleste. Nous devons apprendre à vivre dans le monde d'une manière qui est conforme à notre identité de chrétien, avec sagesse. Être dans le monde sans être du monde, c'est pas simple. Hein? La plupart du temps, lorsqu'on nous demande de nous présenter, nous disons ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, dans ce sens, détermine ce que nous sommes. Qu'est-ce que vous êtes? Bon, moi, je suis avocat, médecin, ingénieur chez Airbus. C'est le top. Alors, si vous dites ça, alors vous êtes nécessairement une personne épanouie. Si vous dites « je suis en reclassement professionnel, je suis caissière ou je suis au chômage », alors, nécessairement, vous êtes une personne dépressive, malheureuse. Mais mon identité est-elle déterminée par ce que je fais ou est-ce mon identité qui détermine ce que je fais? C'est la deuxième chose. Mon identité détermine ce que je fais. Je suis chrétien racheté par grâce et je veux glorifier Dieu dans mon couple ou dans mon célibat, chez Airbus ou au Pôle emploi, en bonne santé ou dans la maladie. C'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment important. Et dans le monde dans lequel on vit, on doit avoir cette pensée-là. Ce que nous sommes avant tout, non pas des ingénieurs ou des maçons ou des chômeurs, nous sommes des chrétiens qui ont été appelés par Dieu pour être une bénédiction pour eux, ce monde. Dans l'adversité, la famille de Jacob, elle va être nourrie. Vous vous rendez compte? Nourrie. C'est pas qu'ils ont dû... Non, ils ont été nourris tous les jours, invités à la table de Pharaon. Regardez chapitre 45, verset 11, il est dit, quand Joseph invite ses frères à venir, il dit, « Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Mais moi, je te nourrirai. » Puis verset 18, chapitre 45, toujours, « Prenez votre père, c'est Pharaon qui parle, et vos familles, et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays, et vous mangerez la graisse du pays. » Au chapitre 50, verset 21, il est dit encore, c'est Joseph qui parle à ses frères, il dit, « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Je vous entretiendrai. Et pendant toute cette famille, alors que le monde, de toute cette région du monde était dans la famine, dans la détresse, le peuple d'Israël était nourri, merveilleusement. Vous avez remarqué, je crois que Moïse, quand il raconte l'histoire, au verset 12, il dit « Joseph fournit du pain à son père et à ses frères », chapitre 47. Et à toute la famille de son père, selon le nombre de ses enfants. Et juste après, regardez ce qu'il dit, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande, le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Et tous les versets suivants, du chapitre 47, verset 14 jusqu'à verset 26, ils sont en train d'expliquer comment est-ce que la famine a sévi. Et que les Égyptiens sont venus devant Joseph en disant, on n'a plus d'argent, mais on a encore faim. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, apportez vos troupeaux. Et puis l'année suivante, ils ont apporté leurs troupeaux, ils n'ont plus de troupeaux qui leur appartient en propre. Il leur dit, on a encore faim. Et ils disent, mais apportez-moi vos terres alors. Et puis il reprend toutes les terres d'Égypte et tout cela s'est entré dans les caisses de Pharaon. Et puis même eux disent, on n'a plus de terre, on n'a plus de bétail, on n'a plus d'argent, mais on a faim. Eh bien allez, je vous achète vous. Tous comme esclaves pour Pharaon. Et vous savez quoi? Il est dit ici que dans le chapitre 47, verset 25, le peuple dit de Joseph, « Tu nous sauves la vie !» Non seulement il fait tout ça, mais eux sont reconnaissants. Ils disent, « Sans toi, Joseph, on serait morts. Tu nous as rachetés, tu as racheté nos bétails, tu as pris tout notre argent, mais nous vivons et nous te devons la vie. » Et ils lui sont reconnaissants parce que Joseph ne s'est pas enrichi. Il a tout mis dans les caisses de Pharaon. Le pays appartient à Pharaon. Le pays n'appartient pas à Joseph, mais le pays appartient à Pharaon. Mais il y a un truc qui m'a surpris ici. Et j'ai trouvé ça aussi dans un commentaire. C'est que vous avez remarqué, à plusieurs reprises, il parle des prêtres. Les prêtres échappent à tout ça. Toutes les terres appartiennent à Pharaon, sauf les terres des prêtres. Or, Joseph, il a épousé Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et donc, par mariage, Joseph est entré dans la classe sacerdotale de l'Égypte. Et lui et sa famille, ils sont donc exemptés d'impôts. Ils sont nourris par Pharaon. Hein, verset 22, c'est ce qu'il nous a dit, 47-22. et leurs terres échappent à la nationalisation. C'est incroyable. Et tout ça, parfaitement légal. Vous imaginez la chose? C'est la famine. Toute l'Égypte a été vendue. Jacob et sa famille sont nourris. Ils ne sont pas imposables. Et leurs terres leur appartiennent. C'est incroyable. Dieu pourvoit. Dieu nous garde sa faveur au sein même de l'adversité. C'est souvent dans les moments difficiles d'ailleurs que l'on reconnaît le plus promptement les grâces de Dieu. Dieu avait promis à Jacob, « Moi, je descendrai avec toi en Égypte. » Et clairement, Dieu était avec Jacob en Égypte. Il a tellement pris soin de lui. Vous savez, quand frappe l'adversité à notre porte, la chose dont on doit s'assurer, c'est précisément que Dieu est vraiment là avec nous, qu'il va nous accompagner. Et quand Dieu nous accompagne, alors on voit à de multiples endroits dans nos vies la provision de Dieu, sa faveur qui nous est gardée, qui nous est conservée. Alors, ne craignez pas les jours difficiles. Dieu va encore conserver sa faveur à votre égard. Et puis enfin, dans l'adversité, Dieu accomplit sa promesse. Dieu avait fait la promesse à Abraham, Isaac et Jacob qu'il ferait d'eux une grande nation, qu'il leur donnerait le pays de Canaan. Mais à ce moment-là de l'histoire, ils ne possèdent pas le pays. À ce moment-là de l'histoire, Abraham a simplement acheté la caverne de Macpéla, ce qui est quand même pas tout le pays, et il y a juste enterré Sarah. Mais le pays de Canaan est toujours occupé par les Cananéens. Et la promesse de Dieu à Jacob et à Abraham, c'est qu'Israël doit remonter et prendre possession du pays. Mais prendre possession d'un pays avec 70 personnes, c'est compliqué. Dans la promesse que Dieu fait à Jacob, regardez, chapitre 46, verset 3, il dit « Car, ne crains point de descendre en Égypte, car là, en Égypte, dans l'adversité, je te ferai devenir une grande nation. » Nous, on connaît la suite. On connaît que le séjour d'Israël en Égypte, c'est pas juste quelques années, c'est 400 ans. Et que pendant ces 400 ans, c'est de longues années d'esclavage. Mais la Bible dit aussi, et la promesse est devenue réalité, que pendant le temps d'adversité, le peuple d'Israël, ou la famille de Jacob, est devenu le peuple d'Israël. Le clan a multiplié. La famille a prospéré. Dans le chapitre 47, verset 27, il dit « Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. » Et au fond, je trouve ça merveilleux. Pendant toutes ces années d'esclavage, pendant toutes ces années difficiles d'adversité, ils n'ont cessé de multiplier. Je vous lis juste le début du livre de l'Exode, au chapitre 1, verset 12, il dit « Mais plus on les accablait, et plus ils multipliaient et s'accroissaient. » Dans l'adversité, la promesse de Dieu s'est accomplie. Celle qui était tout le temps une promesse devient maintenant une réalité. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient un peuple nombreux. Et ils ont pu conquérir le pays promis. L'Égypte, l'adversité ici, ça a été comme l'incubateur pour le peuple, pour la famille de Jacob. Dans vos vies, les jours difficiles, les jours d'adversité, les jours qui sont les plus difficiles à vivre, ce sont souvent les jours où vous allez grandir, où vous allez prospérer dans vos âmes, où vous allez comprendre qui est Dieu, saisir ses promesses et les voir s'accomplir dans vos vies. Ils ont passé 400 ans en Égypte et ils n'ont pas été digérés par les Égyptiens. Quand les migrants débarquent dans un pays, en 30, 40 ans, les petits-enfants des migrants sont complètement intégrés. Mais là, ils ont passé 400 ans et n'ont pas été intégrés. Les périodes de votre vie que vous regardez peut-être comme les plus difficiles sont probablement les plus fructueuses. Dieu n'est pas empêché par l'adversité pour accomplir son plan. Non, au contraire, il accomplit son plan au travers de l'adversité. On aimerait parfois que nos vies échappent à l'adversité. Si vous connaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous pouvez être sûr d'une chose. Un jour, dans l'éternité, dans le ciel, vous échapperez à l'adversité. Plus d'adversité. Mais ici-bas, Dieu l'envoie pour nous rappeler que nous appartenons à un peuple déchu. Il nous a bénis pour que nous soyons une bénédiction. Mais il nous assure aussi qu'il nous conserve sa faveur et ses soins. Alors, ne crains pas au jour de l'adversité. L'adversité sert souvent mieux que la prospérité, le dessein de Dieu. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Regardez à Christ. Il a connu l'adversité la plus grande qui soit, la croix. Mais c'est par elle que Dieu a accompli la plus grande promesse qui soit, sauver les pécheurs que nous sommes. Quand Dieu crée l'adversité dans nos vies, comme Jacob, alors approchez-vous de lui dans la prière. Laissez-vous encourager par lui. Je serai avec toi. Je te bénirai. Je te conduirai. Je te multiplierai. Que Dieu nous bénisse.